frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant la guérison. Nous arrivons à l'étude numéro 7. Cette étude, comme elle est beaucoup trop longue, doit être faite en deux parties. Aujourd'hui, nous aurons la première partie. Exorcisme et prière de délivrance. Certains passages de cette étude, je les ai déjà dit antérieurement, mais comme ce thème est très important, il est donc de mon devoir de les répéter. Du reste, si vous lisez attentivement la Sainte Parole de Dieu, chacun pourra en convenir et constater qu'il y a des phrases qui se répètent, pas seulement deux fois, mais plusieurs fois. Il y a donc une importance à tout cela. Chers amis, dans l'article « Exorcisme » du dictionnaire de spiritualité, il est rappelé que le pouvoir de chasser les démons par un rite d'imposition des mains accompagné de l'invocation du nom de Yahvé est attesté par le judaïsme contemporain des origines chrétiennes et également reconnu comme étant authentique par la tradition. La formule utilisée par les exorcistes juifs semble avoir été le plus souvent par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, accompagné d'une lecture de l'Écriture sainte. Pendant deux ou trois siècles au moins, dans les communautés chrétiennes, cette pratique de l'exorcisme demeure courante avec l'invocation du nom de Jésus-Christ crucifié sous Ponce Pilate. Au IIIe siècle, Tertullien déclare dans son apologétique qu'on produise à l'instant ici, devant votre tribunal, un homme qui soit reconnu pour être possédé du démon, si un chrétien ordonne à cet esprit de parler, celui-ci confirmera qu'il est un démon. Au seul contact de nos mains, ils doivent sortir du corps des hommes. Ces exorcismes sont faits aussi bien sur les Juifs ou les païens que sur les chrétiens, aussi bien sur les personnes que sur des animaux, sur des choses ou des lieux, ça existe, des lieux entiers qui sont sous une domination de parfois même d'un prince des esprits mauvais, comme le montre Origène à Alexandrie. Il s'agit encore au IIIe siècle d'un don ou un charisme reconnu à certains chrétiens, même si on commence à en réglementer l'usage. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui diront, afin d'exorciser les démons, des mots qui sont tels que « Père céleste, que ta main puissante contraigne le démon à se retirer de cet homme ou femme afin qu'il ne puisse retenir captif plus longtemps celui que tu as fait à ton image et racheté en ton Fils Jésus-Christ. » Je répète ceci parce que c'est très important pour ceux qui voudraient l'utiliser, cette formule. Je répète donc, Père céleste, que ta main puissante contraigne le démon à se retirer de cet homme ou de cette femme, on nommera le nom de la personne, afin qu'il ne puisse retenir captif plus longtemps celui ou celle que tu as fait à ton image et racheté en ton Fils Jésus-Christ. Suite à la lecture de la Sainte Parole de Dieu, quatre textes de l'Évangile sont proposés, dont le prologue du quatrième Évangile et la finale de Saint Marc vont achever en quelque sorte par une nouvelle prière qui va demander pour l'exorciste les grâces dont il a besoin pour exercer son ministère avec puissance et en toute sécurité. Il impose les mains avant de prononcer trois longs et vigoureux exorcismes, des formules imprécatives qui ordonnent aux démons, et chacun d'entre eux étant précédé d'une oraison demandant à Dieu de repousser l'adversaire, et on les appelle ordinairement, souvent à tort, des exorcismes déprécatifs. Selon notre expérience, c'est le plus souvent à la fin du troisième exorcisme que celui-ci réagit le plus vigoureusement et se trouve contraint à céder du terrain. Bien sûr, il y a des cas où l'esprit mauvais sort du premier coup, mais il y a des cas où vraiment la personne est possédée depuis très longtemps ou qu'elle a pratiqué des choses qui permettent à l'esprit mauvais d'avoir vraiment construit sa demeure presque d'une façon définitive dans cette personne. On dira donc, retire-toi maintenant. Retire-toi, séducteur, car ta demeure, c'est le désert. Ce n'est plus le moment de temporiser, car voici que s'approche le Seigneur qui te domine. Car si tu as pu tromper un homme ou une femme, tu ne pourras te rire de Dieu. Il te rejette. Celui aux yeux duquel rien n'est caché, il te repousse, et celui à la puissance de qui tout est vraiment soumis, il te chasse. Celui qui a préparé le feu éternel pour toi et pour tes anges, et de la bouche duquel sortira un glaive acéré, lui qui viendra juger par le feu les vivants et les morts de tous les siècles. Je te commande donc, dans le très saint et puissant nom de Jésus-Christ, de sortir et de quitter cet homme ou cette femme, et cela maintenant, à cet instant même. Amen. Il est parfois nécessaire de faire encore une prière de protection, telle que nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Fais que l'esprit d'iniquité n'ait plus de pouvoir sur cet homme ou femme. Remplis, Seigneur, cette personne, et nous dirons son nom et son prénom, remplis-le de ton Saint-Esprit et donne-lui la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons été rachetés, et fais que nous n'ayons plus à craindre aucun mal, car le Seigneur est avec nous et il a vaincu le mal sous toutes ses formes. Amen. Je crois que c'est important pour ceux qui voudraient noter certaines phrases ou les réécouter, de répéter ce que je viens de dire, car c'est très important. Premièrement, on pourra dire « Je te commande dans le très saint et puissant nom de Jésus-Christ de sortir et de quitter cet homme ou femme, et cela maintenant, à cet instant même. Amen. » Et pour être sous la protection du Seigneur et de l'Esprit Saint, ce qui est important, nous dirons, nous t'en prions Dieu Tout-Puissant, fais que l'esprit d'iniquité n'ait plus de pouvoir sur cet homme ou cette femme. Remplis Seigneur cette personne, et nous nommerons son nom et son prénom, de ton Saint-Esprit, et donne-lui la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons été rachetés, et fait que nous n'ayons plus à craindre aucun mal, car le Seigneur est avec nous, et il a vaincu le mal sous toutes ses formes. Amen. Chers amis, on reproche parfois à ces formules de s'adresser au diable comme à une personne située en vis-à-vis. Mais n'est-ce pas précisément le cas? Je vous pose la question. Croyez-vous qu'il se trouve à 1000 kilomètres de là ou plus? Et encore, on souligne le risque en s'adressant à une personne autre que celle à laquelle on parle, « Retire-toi, Satan », d'accentuer une dissociation psychologique latente en dépossédant la personne de son réel, et le risque, certes, peut exister, et il importe donc d'y prendre garde. Cependant, voyez-vous, ce n'est pas au possédé que l'on s'adresse, mais pas du tout. Mais pas du tout. On s'adresse à l'adversaire, l'adversaire qui habite dans cette personne et tente de le déposséder de lui-même ou d'elle-même. Et je peux garantir par expérience que ni le possédé ni l'adversaire ne s'y trompent, jamais. C'est au contraire, avant même toute libération, et combien plus après, un grand soulagement pour lui ou pour elle que de savoir que ce n'est pas de lui-même que jaillissent ses pensées très troubles, voire même inquiétantes, ses impulsions qui sont hors normes, et ses actes qui lui font horreur, et cela à juste titre. Comme le Christ, le serviteur ne s'adresse donc pas au démon. Non, non, non. En le priant poliment de bien vouloir s'en aller. Non. Là, il faut agir un peu à la façon germanique. Es wird ein Befehl gegeben. Du musst ihm befehlen. Il faut le commander avec force et autorité. Hein? Une dernière mise en garde provient des psychiatres et il convient d'y être tout particulièrement attentif, car tous les psychiatres ne sont pas tordus. Il y en a des excellents et qui sont même croyants, que ce soit catholiques ou protestants, peu importe, et leur expérience des malades mentaux leur fait redouter que la pratique même d'un exorcisme ne vienne susciter chez des personnes très fragiles une sorte de délire mystique à l'envers qui est susceptible de leur faire croire à une intervention diabolique alors qu'il n'y avait au point de départ qu'un dérèglement psychique. Une personne peut être psychiquement dérangée sans être possédée d'un mauvais esprit. C'est là qu'il faut donc du discernement. Et surtout pas faire les choses seul, tout seul, en pensant « je suis au-dessus de tout ». Le risque n'est pas illusoire et l'histoire comme l'expérience clinique pourrait en fournir des exemples. Et c'est pourquoi les conseils d'un psychiatre lors d'un discernement, voire son assistance lors d'un exorcisme, peuvent être utiles et même nécessaires dans certains cas. Mais prudence ne signifie donc pas abstention. Il ne faut pas faire une abstention systématique. Si l'on a par ailleurs des signes suffisamment clairs, eh bien, il faut agir. Je pense par exemple à cet homme profondément engagé dans une secte satanique et qui s'efforçait de se dégager des errements de sa vie antérieure. Eh bien, ce combat a duré de longues années avec l'aide de 3 exorcistes successifs. Tout n'est donc pas facile et automatique. Donc, en ce qui concerne, chers amis, le combat spirituel auquel tout homme est confronté, tel que la tentation, les vexations légères et passagères, Saint Paul, il donne aux Éphésiens les indications essentielles. Il leur dit « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. » L'armure de Dieu, ce sont la vérité, la justice, le zèle à propager l'évangile de la paix, la foi et le glaive de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la sainte parole de Dieu. Mais surtout, vivez dans la prière et dans les supplications. Priez en tout temps dans l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Bref, il faut donc prier et de toutes les manières si possible, et n'ayons pas peur, ni soyons faussement humbles en disant simplement le Notre Père. Cela suffira. Notre Père, délivre-nous du mal. La prière individuelle va nourrir de la parole de Dieu et l'intercession demandée aux frères et sœurs et par-dessus tout, il y a le sacrement de la réconciliation qui ferme évidemment la porte aux malins. Enfin, le développement du renouveau charismatique depuis 25 ans ou plus a permis la redécouverte et le développement de ce que l'on appelle la prière de délivrance. Cette prière qui se pratique couramment dans les églises des chrétiens. Il s'agissait au début d'un petit groupe de personnes soigneusement sélectionnés, qui accueillaient dans la compassion et la prière un frère ou une sœur en difficulté. Si après un temps d'écoute et de prière, il est important d'écouter, l'action d'un esprit mauvais était discernée, alors la prière se poursuivra, de préférence en présence du Saint-Sacrement, demandant à Dieu de délivrer la personne et ordonnant éventuellement à l'esprit mauvais, wir geben ein Befehl, de quitter les lieux et coupant ainsi les liens qu'il avait pu tisser en cette personne. Il faut donc couper cela et d'une façon drastique. La simple prière de délivrance, elle relève de l'initiative de celui qui prie et qui s'efforce de laisser l'Esprit Saint guider sa prière. Et la seule règle sera, avec le bon sens, la communion de foi et de vie avec toute l'Église. Ne faisons pas les choses tout seul, en se disant « moi, je suis quelqu'un ». Nous sommes rien du tout, nous sommes que les instruments entre les mains du Tout-Puissant, de notre Seigneur bien-aimé. De soi, le contenu d'une prière privée et donc sa forme déprécative ou imprécative, son intention de demander et d'obtenir telle ou telle grâce ne le relève d'aucune réglementation. Chers amis, Christ commande donc aux démons ce que souligne avec force les formules à l'impératif dites imprécatives. Ça, c'est l'actualisation du mystère du salut apporté par le Fils de Dieu, venu dans la chair et se prolongeant dans l'Église corps du Christ, divine et humaine à la fois. Je répète, c'est l'actualisation du mystère du salut qui est apporté par le Fils de Dieu, qui est venu dans la chair et qui se prolonge dans l'Église qui est le corps du Christ divin et humaine à la fois. Donc la prière privée, une simple prière de délivrance, tire sa puissance de la qualité de foi et de la prière de celui ou de celle qui la prononce. Rien ou pas grand-chose ne se fait s'il ne prie pas d'un cœur humble et purifié. Ayons un cœur humble et soyons purs, débarrassés de tout ce qui peut empêcher l'action, avec une foi qui n'hésite pas, en se remettant dans la communion de la prière de toute l'Église et en se faisant tout accueil pour recevoir du Christ Jésus seul, le seul Sauveur, et de son Esprit Saint, la grâce demandée. Il serait donc imprudent de se lancer, vous l'avez compris, dans le combat redoutable qui est un affrontement direct avec le mauvais, si l'on n'y est par exemple pas préparé du tout, et ceci humainement et spirituellement. Bien entouré et bien soutenu, c'est ce que nous devons être par la présence de l'Esprit Saint qui seul peut donner à qui il veut, et quand et comme il le veut, l'ensemble des charismes nécessaires à une prière de délivrance, charisme de discernement, de compassion, de foi et d'autorité. Et ce n'est que rarement qu'un seul fidèle jouira au même moment de tous ces charismes. Et c'est pourquoi il ne se lancera pas tout seul en un tel combat. Je répète, ce n'est que rarement qu'un seul fidèle jouira au même moment de tous les charismes. C'est donc pourquoi il ne doit pas ou elle ne doit pas se lancer tout seul en un tel combat. Il reste à espérer que la réforme contribuera à éclairer l'ensemble du problème en prenant la juste mesure de la situation actuelle et sans rien minimiser des données de la foi et des besoins des fidèles. Certains auditeurs se demanderont peut-être à la fin de cette étude, est-il vraiment nécessaire de faire ressurgir ce vieux débat? Ou encore, soit Satan existe, mais ce n'est dans l'ensemble de la foi qu'une question secondaire, voire même marginale. Et il y a pour l'Église bien d'autres préoccupations plus urgentes et plus importantes. Ne serait-il pas plus sain de laisser tout cela dans l'ombre et de s'intéresser tout d'abord aux aspects positifs de la foi, la communion de vie avec Dieu et de la mission de l'Église dans le monde de ce temps de la fin? Ce sont les masses médias, et tous savent très bien que l'influence de l'Église y est bien minime, qui en font un véritable matraquage médiatique. Et le plus étonnant, c'est que l'opinion publique suit. Ce n'est donc pas non plus l'Église qui, dans son enseignement, vient perturber les esprits par une quelconque chasse aux sorcières. Le reproche à lui adresser serait plutôt à l'inverse de laisser désemparer la foule de ceux qui, après avoir couru d'une pratique occulte à l'autre et avoir recouru en vain aux désenvoûteurs de toutes sortes, se tournent enfin vers l'Église à la recherche d'un des rares exorcistes disponibles. Mais la véritable question est bien plus profonde. Est-il vrai que l'existence et l'action de Satan ne sont dans la foi et dans la vie de l'Église qu'une question secondaire et marginale? Cette étude voudrait montrer tout au contraire qu'il s'agit d'une question secondaire peut-être, mais beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, et qu'elle fait partie de l'essence même de la foi chrétienne et est présente dans la plupart de ses aspects. Donc, la laisser dans l'ombre risquerait d'entraîner une dénaturation profonde de la foi et une déviation ou une carence grave dans la compréhension et dans l'exercice de la mission de l'Église. Le chapitre des anges et des démons faisait déjà partie autrefois du traité de la création. Les religions païennes, tout en reconnaissant le plus souvent du reste une divinité souveraine, c'est-à-dire le grand Dieu, le Père des dieux, rendait surtout un culte à une multitude de divinités plus proches des hommes, mais coexistantes à ce grand Dieu dans le monde des dieux, que celui-ci soit situé dans un temps primordial, mythique, ou dans un monde invisible, ou du moins inaccessible aux hommes. Le propre de la foi juive et de la foi chrétienne est de proclamer que Dieu est l'unique, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, vérifié dans l'Ancien Testament. C'est le seul Dieu très haut, le seul tout-puissant, c'est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Les puissances invisibles, de quelque nom qu'on va les appeler, ne sont pas niées, mais elles sont réduites à l'état de créature, et cela au même titre que l'univers visible. Elles sont toutes créées bonnes par ce Dieu bon qui ne peut créer que des êtres bons. Les unes sont restées bonnes, fidèles à celui qui les a faites. Ce sont les anges, et certaines, il est vrai, se sont révoltées contre leur Créateur et ont tenté ainsi d'entraîner les hommes dans leur orgueilleuse désobéissance et de susciter dans le monde toutes sortes de maux. Ça, ce sont donc les démons auxquels la Sainte Bible assimile les idoles et les divinités païennes. Il n'est pas question, bien sûr, de ressusciter toutes les spéculations médiévales sur le sexe des anges, ça ne nous intéresse absolument pas, ou sur les hiérarchies angéliques. Ce ne sont que réflexions humaines de théologiens sur la multitude des termes dont ces créatures invisibles sont nommées dans la Sainte Bible à partir des traditions telles que les chérubins et les séraphins, soit de spéculations philosophiques, des puissances, des trônes, des dominations, soit des missions que Dieu leur donne dans l'histoire du salut, telles que les anges, c'est-à-dire les envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut, tels que les archanges. Mais l'existence de ce monde invisible souligne fortement l'universalité inépuisable de la puissance du Dieu créateur de toutes choses. En d'autres termes, Dieu n'épuise pas sa puissance créatrice en créant l'univers visible. Et quand il a créé l'homme en lui communiquant quelque chose du souffle même de sa propre vie, vérifié dans la Genèse, au chapitre 2, verset 7, et en le faisant à son image comme à sa ressemblance, vérifié toujours dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26 et 27, c'est donc par un don gratuit de sa liberté. les révélations de l'existence du monde invisible soulignent ainsi la transcendance absolue du Dieu de l'Alliance qui nous invite à une adoration éblouie de sa toute-puissance et de la gratuité de son dessein d'amour envers l'homme, et nous préserve de toute prétention à nous prendre pour le centre du monde. L'homme, il est la mesure de toutes choses, disait le philosophe grec Protagoras, qui était l'initiateur de l'anthropocentrisme qui domine tout l'humanisme moderne. Donc, chers amis, renoncer à ce chapitre du traité de la création, ce serait donc non seulement biffer de l'écriture au nom de nos convenances à nous, bien des pages qui en font partie intégrante, mais encore de mutiler la foi, en quelque sorte d'essayer de l'anéantir, la foi de l'Église, qui dans sa tradition constante les a toujours et toujours reçus comme révélation de Dieu. Ça serait défigurer Dieu dans le visage qu'il nous a donné de lui-même et finalement de risquer de nous attribuer à nous-mêmes ce que nous retirerions aux puissances invisibles, c'est-à-dire le privilège d'être en notre nature les plus belles créatures de Dieu. Chers amis, faire preuve d'optimisme ou de pessimisme, langage qui n'est pas de mise quand il s'agit de sauvegarder une authentique vision théologique. Or, ce que nous dit la foi chrétienne, c'est l'affirmation de la victoire de l'amour qui ne néglige pas la prise en compte de la présence insidieuse du mal. Une question redoutable, ça c'est une question redoutable, c'est celle du mal et qu'il faut donc oser saisir carrément à bras le corps. Pour pouvoir parler du diable, il n'est possible de poser l'existence de Satan que dans le cadre plus général de l'existence du mal. C'est un problème qui hante depuis toujours la pensée des hommes et représente pour eux une énigme obscure, voire même diabolique. Comment ont-ils essayé d'y répondre, sinon en trois schémas que l'on retrouve comme tels suivant les époques et les systèmes philosophiques? Premier schéma, il y a le dualisme qui pose l'existence de deux principes antagonistes à l'origine du tout. Un principe personnel du mal et un principe personnel du bien, principe en opposition et en conflit. Nous reconnaissons là une tentation permanente de l'esprit humain qui est devenu un système de pensée dans les différents courants philosophiques. Donc, nous sommes là dans un univers philosophique et métaphysique étranger à la pensée chrétienne, pour qui Dieu est le seul créateur du réel dans son ensemble et le seul seigneur de l'histoire. Second schéma, c'est celui du monisme. Pour ce courant-là, la création n'ayant pas d'indépendance ortologique, plutôt ontologique, excusez-moi, par rapport à Dieu. Je répète, pour ce courant, la création, elle n'a pas d'indépendance ontologique par rapport à Dieu, et le mal qui est inscrit dans le monde créé doit donc, d'une certaine façon, se rapporter à Dieu même, et il serait comme un élément de la création selon le plan divin. On voit donc les dangers d'une telle conception qui porte atteinte à la sainteté de Dieu en affirmant l'éternelle nécessité du mal. Nous n'avons pas besoin d'avoir le mal avec ou en nous. Troisième schéma, c'est celui qui sauvegarde l'acte créateur de Dieu dans sa bonté initiale et qui prend en compte la possibilité d'un désordre et d'une déviance introduite par la libre décision de la créature. Et cela parce que pour la foi chrétienne, elle introduit entre Dieu et ses créatures un dialogue de liberté et d'amour. En ce cas, le mal ne peut être pensé que dans le cadre de la dignité d'une créature douée de liberté et qui peut user de cette liberté pour introduire le chaos, la violence et la destruction. Parmi ces créatures, l'Écriture sainte évoque tout le monde, tels les esprits, les anges bons et mauvais, car Dieu est le créateur des choses visibles et invisibles. Et l'Écriture sainte situe aussi le mal à ce niveau-là, dans ce refus d'esprits qui ont été créés bons, mais qui sont devenus mauvais, et cela par un libre choix. Vous et moi, nous avons exactement comme ces esprits le libre choix d'accepter la main tendue du Seigneur ou de la refuser. Je répète souvent qu'il m'a fallu lire 3 fois l'épître de... l'évangile de Saint Jean, 3 fois, pour enfin comprendre que j'étais perdu pour l'éternité. Et cela aurait pu mal finir pour moi, je peux vous le dire, car j'y ai passé. À ma femme, qui était d'un esprit beaucoup plus évolué, elle a dû le lire seulement 1 fois pour comprendre qu'elle était perdue. Et ensemble, on a pu cheminer main dans la main par la suite, et c'est pour ça que je peux dire, et ça engage que moi, ne le comprenez pas d'une façon biaisée, pour moi, elle était une sainte. Et je répète, ça engage que moi, puisque j'ai vécu avec elle 40 ans. J'en sais un peu quelque chose. Mais revenons à notre étude. Lucifer, le diable, et les autres démons ont été créés bons de par leur nature au commencement. Mais ce sont eux-mêmes qui se sont rendus mauvais. Nous touchons là un point important de ce que nous mettons derrière le concept mal, non seulement une abstraction, mais ce que l'Église définit comme un agent ennemi et obscur, un être vivant spirituel, perverti, et surtout pervertisseur. En affirmant cela, l'Église n'hésite pas à nous redire que s'écartant de l'enseignement de la Sainte Bible et de l'Église, tous ceux qui refusent de reconnaître son existence, eh bien, tôt ou tard, le regretteront. Quiconque se croit obligé de se décider autrement ne devra pas se contenter de nier cette existence, mais il lui faudra montrer qu'il peut vraiment proposer une meilleure explication de l'origine du mal. Nous allons terminer cette étude bientôt par la prière. Je dirai encore, de fait, voyez-vous, c'est en faisant appel au rôle joué par le serpent, vérifiez la Genèse au chapitre 3, et le Satan, selon le livre de Job, chapitre 1 et le chapitre 2, que l'Ancien Testament aborde cette réflexion jamais achevée dans l'histoire humaine. Et comme on l'a vu précédemment, bien loin de prendre de la distance par rapport à cette présentation ancienne, Jésus-Christ et ses apôtres en ont souligné l'importance. Reconnaissons d'abord que si une sagesse humaine avait résolu le problème, cela se saurait, et les hommes auraient cessé depuis longtemps cette quête angoissée qui est la leur depuis au moins 3 millénaires. D'autre part, il faut bien avouer qu'au moins en un premier temps, la foi juive au Dieu unique n'a fait que rendre le problème encore plus difficile à résoudre en suscitant le scandale d'un Dieu bon et tout-puissant qui laisse souffrir ses créatures sans qu'il y ait de leur part quelque culpabilité que ce soit. Voyez-vous, ça c'est le drame dans lequel se débat déjà notre cher Job. Ça, c'était le type même de l'homme extraordinaire, juste. Il était juste et il était poursuivi plutôt par le malheur qui a essayé de l'écraser sous le regard apparemment impassible d'un Dieu silencieux. J'ai bien dit apparemment, parce qu'il faut lire tout le livre de Job pour bien comprendre. Alors on comprendra la révolte d'un Alfred de Vigny à la fin d'un de ses poèmes où il dit « Et l'homme ne répondra que par un froid silence, au silence éternel de la divinité. » Ou encore celle de Camus, qui récuse ce Dieu accusé de faire souffrir les petits-enfants innocents. Oui, chers amis, il est facile d'accuser Dieu, mais rira bien qui rira le dernier, car ce qui arrive actuellement dans le monde, c'est que le début de tout ce qui va encore arriver de terrible. Vous savez, si à Tokyo on a dit il y a quelques jours qu'ils ont eu jusqu'à 52 degrés, ils pouvaient même cuire un œuf sur le capot d'une voiture, qu'est-ce que ça sera quand il est dit que les humains que nous sommes insulteront, blasphémeront contre Dieu, tellement que les souffrances seront terribles, sans compter toutes les bestioles qui nous arrivent par le réchauffement climatique, les changements terribles, les fléaux divers, sans compter le fameux moustique tigre, mais il y a des choses bien plus graves. S'il pleut en une demi-heure la quantité de pluie que d'habitude il pleuvait en 6 mois dans certains endroits, qu'il y a des sécheresses telles que le feu s'embrase tout seul et détruit des régions plus grandes que la Suisse, et ainsi d'autres phénomènes climatiques épouvantables, et bientôt plus aucun poisson dans les mers, et sans compter ceux qui vont mourir de faim dans les prédateurs parce qu'il n'y a plus rien à manger, et les humains qui se nourrissaient par millions de poissons ne pourront plus se nourrir. Tout cela, c'est que le début de ce qui va encore nous tomber sur la tête. Quand ils ont montré des grelons jusqu'à 1 kilo, c'est énorme. Que pensez-vous de grelons qui auront plus de 7 à 10 kilos? Tout cela est prévu. Prions donc maintenant ensemble. Et cette prière, vous pouvez la dire tranquillement, après moi. Mais si, pour une raison ou autre, ce n'est guère possible, vous pouvez réécouter ce CD et noter quelques phrases, parce qu'il ne faut pas être dogmatique. Ces prières sont pour vous guider, pour vous permettre de faire vos propres prières selon, pardon, selon vos propres besoins. Prions donc ensemble. Ouvre mes yeux, ô Seigneur, pour que je voie les merveilleuses choses de ta loi. Tu as ordonné que ton peuple soit délivré de tout mal. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné le pardon à tout pénitent. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné la guérison de toutes nos maladies. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné que ton esprit réside en nous et qu'il nous donne la vie. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné un royaume pour nous, pour que là où tu sois, nous y soyons aussi. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné que la terre soit remplie de ta gloire, comme les eaux couvrent la mer. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Tu as ordonné que tout soit possible à celui qui croit. Ouvre mes yeux pour que je voie son accomplissement. Oui, ouvre mes yeux, ô Seigneur, pour que je voie tes lois, tes promesses se réaliser. Ouvre les fenêtres de mon âme pour voir les richesses des cieux étalée devant moi. Donne-moi la vue pour voir et de connaître ta bonté perfectionnée en moi et la saisir avec la main de la foi. Ouvre mon cœur pour laisser entrer la chaleur de ton amour guérissant, pour qu'il suive pleinement son cours en moi. Car je me suis rappelé tes jugements éternels, et j'ai reçu de la force. Je n'oublierai jamais tes commandements, car tu m'as donné la vie par eux. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, Dieu voulant, la deuxième partie de cette étude, mais la série continue encore pour très longtemps. Au travail, n'est-ce pas, comme on dit. Et vous savez, il ne faut pas dramatiser. Quand je dis parfois « Arbeit macht frei », ce n'est pas tout faux, car simplement dire ce que j'ai entendu ce matin aux nouvelles, que des chers Français, que j'aime beaucoup, disent « Oh là là, il ferait bon d'avoir encore quelques semaines de vacances ». Mais nous ne pouvons pas faire 4 fois par année des vacances, car un pays ne peut pas avancer sur le domaine financier, de la sécurité sociale et tout ce qui s'en suit, simplement en se disant le travail, c'est peut-être la santé, mais de rien faire, c'est en tout cas de la conserver. C'est peut-être pas toujours la bonne méthode. Certains pays ne se l'autorisent pas. C'est pour ça qu'ils avancent légèrement mieux. Bref, nous sommes pas là pour faire des critiques, mais Dieu nous interdit pas de réfléchir et d'être réaliste. Bien sûr qu'il nous interdit de critiquer. Ne critiquons jamais derrière le dos de quelqu'un. Mais nous avons le droit de voir les choses avec le discernement que nous demandons à Dieu pour savoir si telle ou telle chose et en accord avec la sainte parole de Dieu. À demain matin, Diane Debout, à bientôt mes chers amis. Soyez bénis, car le Seigneur vous aime. Au revoir. Yes.